Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier numéro 6. Le clergé jouit à peu près d'un cinquième des biens du royaume, et ces biens doivent être regardés comme une portion du domaine de l'État, employée au maintien du culte public et à l'instruction des peuples. Mais puisque le culte est nécessairement le résultat des opinions religieuses, sur lesquelles chaque homme ne peut avoir de juge légitime que sa propre conscience, il paraît que les dépenses du culte doivent être faites volontairement par ceux qui croient les opinions sur lesquelles le culte est fondé, et qu'il y a une espèce d'injustice à asseoir cette dépense sur des fonds auxquels tous les citoyens semblent avoir un droit égal. L'instruction morale du peuple devrait être absolument séparée et des opinions religieuses et des cérémonies du culte. La morale de toutes les nations a été la même, et presque partout elle n'a été corrompue que par son mélange avec la religion. On ébranle la certitude des principes de la morale en les liant avec des opinions qui, partout, sont ouvertement combattues ou rejetées en secret par un grand nombre d'hommes, et surtout par ceux qui ont le plus d'influence sur le sort des autres. On mêle aux devoirs réels des devoirs factices, qui souvent leur sont opposés, auxquels, cependant, ceux-ci sont toujours sacrifiés, en sorte que par ce mélange, l'ordre des devoirs est interverti et ces devoirs eux-mêmes éludés ou violés sous le prétexte de s'élever à des vertus imaginaires. Mais en convenant de ces principes, il n'en est pas moins vrai que si le peuple est accoutumé à voir prendre sur les fonds publics les frais du culte et à recevoir ses instructions de la bouche des prêtres, il y a du danger et même une sorte d'injustice à choquer ses habitudes par une réforme trop prompte. Et c'est un des cas où, pour agir avec justice, en suivant rigoureusement la voie de la vérité, il faut attendre que l'opinion commune s'y soit conformée. Cependant, en laissant jouir les possesseurs actuels, il est aisé de voir que la suppression des ecclésiastiques ou religieux des deux sexes, absolument inutile à l'instruction du peuple et au service des paroisses, rendrait successivement à la nation des biens immenses, dont la vente, en ranimant la culture, en augmentant le nombre des citoyens propriétaires, servirait à payer une partie de la dette publique. Il est clair encore qu'en remplaçant les revenus territoriaux des évêques et des curés par des appointements que paieraient les communautés ou les diocèses, on gagnerait, premièrement, l'avantage de déduire les dîmes, impôts qui, levés sur le produit réel des terres et non sur leur produit net, est injuste dans sa répartition et destructif de l'agriculture. Deuxièmement, qu'on ferait encore une grande économie, puisque ces appointements devraient être tels qu'il convient à des hommes chargés de l'instruction publique et qui doivent donner l'exemple de la simplicité et du désintéressement. Troisièmement, qu'on détruirait les procès entre les communautés et leurs pasteurs, procès qui rendent leur ministère au moins inutile. Cependant, cette réforme, importante non seulement pour la richesse de la nation, mais pour perfectionner l'instruction, et mêlée pour le maintien de la religion, ne peut être faite d'une manière vraiment utile qu'en confiant à des assemblées le soin d'en exécuter toutes les opérations. Sans cela, les possessions réunies au fisc seraient mal administrées, vendues à bas prix, ou même deviendraient bientôt la proie des courtisans. Et le bien, qui doit naître de la division de ces terres, de leur rentrer dans l'ordre ordinaire des propriétés, ne serait sensible qu'au bout d'un long temps, comme celui qu'a produit en Angleterre la destruction des couvents. destruction qui, d'abord, y fut plus nuisible qu'utile. Parmi les maux auxquels le peuple est exposé, il en est un dont M. Turgot n'avait pu voir toute l'étendue sans chercher les moyens d'y remédier. Dans toutes nos provinces, des cantons, plus ou moins étendus, sont couverts de marais, dont les exhalaisons causent des fièvres épidémiques, altèrent la constitution et abrègent la durée de la vie. Les terrains occupés par ces marais n'ont qu'un faible produit, tandis que, s'ils étaient desséchés, ils offriraient de riches moissons, des prairies abondantes, et qu'en même temps, l'augmentation de richesses et de population produite par le dessèchement ranimerait dans les terres voisines la culture et l'industrie. Ces maux ne sont pas tant l'ouvrage de la nature que celui de l'avidité des hommes. Presque partout, des retenues d'eau faites par les seigneurs des rivières, par les propriétaires des étangs, sont la première cause de ces inondations. Et c'est pour l'intérêt malentendu d'un faible revenu qu'ils condamnent la terre à la stérilité et des milliers d'hommes aux souffrances et à la mort. Mais cette cause, qui rend le mal plus cruel, en rend aussi le remède plus difficile. L'expérience, aussi bien que la raison, prouve l'inutilité des lois qu'on a cherché vainement à opposer au mal. Il n'en est point que l'avarice adroite ou accréditée ne sache éluder ou braver. Le seul remède est l'achat de ses droits, dont l'exercice est si funeste, de ses propriétés, qui, par leur nature, nuisent à tout ce qui les environne. L'augmentation du revenu des terrains desséchés, le produit de moulins construits sur d'autres principes, et confié aux soins des communautés intéressées elles-mêmes à prévenir le désordre, celui des étangs, des pêcheries, changées en terre ou en pâturage, peuvent presque partout indemniser à la fois du prix des acquisitions, des indemnités et même des travaux nécessaires pour réparer les désordres causés par les anciens abus ou ce qui, dans ces désordres, était l'ouvrage de la nature. Mais ces arrangements économiques entraînent des détails trop minutieux, exigent trop de connaissances locales, ont trop besoin d'une impartialité, à l'abri du soupçon, une force qu'on ne puisse jamais regarder comme l'abus du pouvoir, résiste à toutes les réclamations ou triomphe de tous les obstacles pour qu'on puisse espérer quelque succès. À moins que ces opérations ne soient confiées à une assemblée d'hommes qui, choisis librement par les propriétaires, unissent à l'autorité que le souverain leur aurait donnée la confiance que ce genre de constitution peut seul inspirer. Ces travaux et ceux des grands chemins auraient offert au peuple une source abondante de salaire, avantage immense ou précaution nécessaire, toutes les fois qu'on opère de grandes réformes. Enfin, les assemblées municipales paraissaient utiles à M. Turgot pour former des citoyens éclairés, les uns propres à discuter les affaires, les autres à remplir les places de l'administration. Elle pouvait être employée à élire les sujets qui devaient occuper des emplois nécessaires, dont il est absurde de faire des charges vénales et par là héréditaires, et qu'en même temps, le gouvernement ne peut remplir par de bons choix, soit faute de pouvoir connaître les sujets, soit parce qu'ils doivent avoir surtout la confiance du peuple, soit parce qu'il faut que leur fonction soit exempte de toute influence du ministère. Tel était le plan, également vaste et simple, par lequel M. Turgot se proposait de détruire successivement tous les désordres de l'administration, d'en créer une nouvelle, entièrement conforme aux principes certains de l'économie politique, et de préparer, aux ministres qui voudraient porter la réforme dans les autres parties du gouvernement, les instruments nécessaires pour assurer le succès de leur vue et leur mériter la confiance de la nation. Nous laissons à nos lecteurs à juger ce que les bons citoyens avaient à espérer, ce que les autres avaient à craindre. Parmi ceux qui ont hasardé la critique de l'administration de M. Turcot, il en est auxquels on est dispensé de répondre. Mais il est aussi des reproches qui peuvent mériter une discussion, non pour l'intérêt de sa gloire, mais pour l'utilité de ceux que le sort destine à de grandes places et auxquels il peut être bon de savoir d'avance comment ils y seront jugés, même par les hommes qui ont des intentions pures. On accusait M. Turcot de négliger ce qu'on appelle les détails de la finance. La réponse en est dans l'histoire de son ministère. Il est très vrai que M. Turcot n'attachait pas un grand prix à certains calculs qui n'exigent qu'une connaissance médiocre de l'arithmétique. Quelques autres, en petit nombre, doivent être faits par des mathématiciens si on ne veut pas être trompé. Et M. Turcot, qui connaissait toute l'importance de l'arithmétique politique, avait pris des mesures pour que les connaissances de détails qui peuvent être fournies par les bureaux fussent mises en œuvre par des mathématiciens capables d'en tirer des résultats utiles et d'en déterminer à la fois l'exactitude et la probabilité. Il est encore vrai que M. Turcot ne traitait pas avec distinction les hommes dont le principal mérite est d'avoir amassé de grandes richesses et de les employer à en amasser encore. Cependant, il croyait que, dans une société où il existe des différences de rang, mais où la richesse les fait disparaître, le ministre le plus ami de l'égalité naturelle, le plus convaincu que l'inégalité des rangs est inutile ou dangereuse, doit, par respect pour les mœurs publiques, ne pas autoriser par son exemple une confusion dont tous les faits est d'exciter l'avidité en lui donnant le double motif de l'avarice et de l'orgueil. On a dit que M. Turcot avait mis trop de précipitation dans ses opérations. Un de ses amis lui en parlait un jour pendant son ministère. « Comment pouvez-vous me faire ce reproche ?» lui répondit-il. « Vous connaissez les besoins du peuple et vous savez que dans ma famille, on meurt de la goutte à 50 ans. » On dit également qu'il y avait mis trop de lenteur. Mais ceux qui le disaient oubliaient que si on retranche des 20 mois qu'il a été ministre, le temps que ces attaques de goutte lui ont enlevé, celui que les émeutes suscitées contre lui lui ont fait perdre, il ne reste qu'une année. Ils ignoraient l'utilité de ces opérations, tandis qu'ils attachaient une importance exagérée à la destruction d'abus que M. Turcot ne ménageait que parce qu'il voulait les attaquer dans leur source, détruire le mal et non le perfectionner. On prétendait qu'il ne consultait personne. Il est vrai que la franchise de son caractère ne lui permettait pas d'employer ce moyen de flatter l'amour-propre. Il est encore vrai qu'après s'être convaincu par la méditation, par l'expérience, de la vérité des principes qu'il avait adoptés, il n'allait demander à personne ce qu'il devait croire. Mais il consultait tous les hommes dont il espérait pouvoir tirer des lumières utiles. Et ce n'étaient pas toujours ceux qui se croyaient faits pour lui donner des avis, et encore moins ceux qui se trouvaient en possession d'être consultés par les ministres et de les tromper. On lui reprochait donc trop de force, trop d'inflexibilité dans le caractère. J'oserais proposer à ceux qui lui faisaient cette objection de réfléchir sur eux-mêmes, de descendre au fond de leur cœur, de voir si dans leur vie publique et privée, la faiblesse et non la fermeté n'a pas été la cause de toutes les erreurs. Caton, lui-même, soumis à cette épreuve, eût avoué que la faiblesse lui a fait faire plus de fautes que son inflexibilité. La faiblesse est un défaut que nous a donné la nature, que nous ne pouvons détruire, contre lequel nous avons sans cesse à nous défendre, et dont aucun homme de bonne foi et capable de quelque courage ne se vantera jamais d'avoir toujours triomphé. On lui a reproché de la maladresse. Monsieur Price, l'un des hommes les plus éclairés et les plus vertueux de l'Angleterre, avait répété cette imputation. « J'aurais pu la mériter, lui écrivit M. Turgot, si vous n'aviez eu en vue d'autres maladresses que celle de n'avoir pas su démêler les ressorts d'intrigue qui faisaient jouer contre moi des gens beaucoup plus adroits en ce genre que je ne le suis, que je ne le serai jamais et que je ne veux l'être. Mais il m'a paru que vous m'imputiez la maladresse d'avoir choqué grossièrement l'opinion générale de la nation. Et à cet égard, je crois que vous n'avez rendu justice ni à moi, ni à ma nation, où il y a beaucoup plus de lumière qu'on ne le croit communément chez vous, et où peut-être il est plus aisé que chez vous-même de ramener le public à des idées raisonnables. » M. Turgot croyait que dans une monarchie où la volonté à la fois bienfaisante, ferme et éclairée du prince peut seule faire le bien, toute l'adresse d'un ministre doit consister à lui montrer la vérité, et jamais il ne l'a déguisée. Il croyait que rien n'est à craindre avec la confiance du prince, et que rien de grand n'est possible sans elle. Il croyait qu'il n'est permis d'acheter l'amitié d'aucun particulier, d'aucun corps, par des sacrifices faits aux dépens de la nation. Il ne voulait pas qu'aucun mélange de fausseté, que la plus légère apparence de charlatanerie, souillât la pureté et la conduite d'un homme public. Il connaissait ses moyens et dédaignait de les employer. Il ne dissimulait ni ses principes, ni ses vues, parce qu'il était plus porté par son caractère à se confier sur la raison, sur la bonté naturelle du cœur humain, qu'à craindre les erreurs ou la perversité des hommes. Telle a été cette maladresse dont on a tant parlé, et qu'il serait difficile de ne pas regarder comme l'apanage nécessaire d'une âme forte et élevée. On disait qu'il ne connaissait pas les hommes. Cependant, peu de philosophes ont eu une connaissance plus approfondie, soit de l'homme tel qu'il serait par la nature seule, soit de l'homme modifié dans la société par les préjugés de religion, de nation, d'état, de corps, par tous les intérêts qui agissent à la fois sur lui. Mais il s'était peu occupé de l'art de connaître en particulier quelques hommes, de savoir les petits détails de leurs intérêts, de leurs passions, de la manière dont ils les cachent ou les découvrent, des ressorts de leurs intrigues, de leur charlatanerie. Et à quoi lui servit une connaissance qui ne peut souvent s'acquérir ni s'employer que par des moyens dont il eût rougi de se servir? Ce défaut a contribué peut-être à priver la France d'un ministre qui en eût fait le bonheur. Mais il tenait à l'élévation de son esprit, comme sa prétendue maladresse à la hauteur et à la pureté de son âme. Enfin, on lui reprochait l'esprit de système. Si l'on entend par là que toutes ses opérations, jusque dans leurs détails, étaient autant de parties d'un plan régulier et général qu'il s'était formé, que ce plan et les motifs qui dictaient toutes ses décisions particulières étaient les conséquences d'un petit nombre de principes liés entre eux, dont quelques-uns lui appartenaient, mais dont aucun n'avait été adopté par lui qu'après en avoir fait une analyse exacte et développé toutes les preuves. Alors, nous avouerons sans peine que M. Turgot a eu l'esprit de système et l'a porté plus loin qu'aucun autre. Il est vrai qu'alors, ce reproche renferme l'éloge le plus grand et le plus dangereux que l'on puisse faire d'un ministre, puisqu'il annonce toute la force nécessaire pour former et exécuter un plan vaste et bien combiné. La volonté de préférer la vérité et son devoir à ses intérêts et à ses passions, et qu'en même temps, il ôte l'espérance à tous ceux dont les intérêts sont opposés aux principes adoptés par le ministre. Si l'on entend par système le peu de respect pour les préjugés établis, pour les maximes d'une politique faible et incertaine, pour le mélange simultané ou successif des principes contraires, pour les opérations faites à demi et combinées d'après des vues étroites ou incohérentes. M. Turgot eut l'esprit du système, et c'est encore un éloge. Mais si l'on entend par esprit de système l'amour des opinions nouvelles et paradoxales, le goût des opérations extraordinaires, celui de ces principes vagues, de ces maximes générales qu'on applique à tout parce qu'elles ne décident rien. Jamais homme ne mérita moins le nom de systématique. Il aimait la vérité sous quelque apparence qu'elle se montrât, ancienne ou nouvelle, commune ou extraordinaire. Personne n'était plus ennemi des idées vagues et des prétendues maximes générales. Et c'était précisément pour s'en préserver plus sûrement qu'il avait réduit toutes ses opinions à un système méthodique dont il avait analysé toutes les parties. Pendant que tous les hommes qui fondent leur puissance ou leur richesse sur les ruines de la liberté ou de la fortune des citoyens se félicitaient par la disgrâce d'un ministre fidèle au prince et à la patrie, ce même événement excitait aussi des regrets. Les hommes honnêtes virent avec peine éloigner des affaires un ministre équitable et humain, à qui il pardonnait en faveur de sa probité des opérations qu'ils n'entendaient pas ou qui blessaient leurs préjugés. Mais le petit nombre des citoyens éclairés et vertueux sentit seul toute l'étendue d'une perte irréparable. Le peuple, qui n'avait pas eu le temps de s'apercevoir du bien qu'on lui avait fait, ignora le malheur qu'il éprouvait. Car, en France, comme dans tous les pays où la presse n'est pas libre, le peuple n'a aucune espèce d'opinion sur les affaires publiques, à moins que des charlatans ou des factieux n'aient l'art, plus facile et plus dangereux qu'on ne croit, de lui en donner une. Parmi ceux à qui le déplacement de Turgot causa une juste douleur, on doit citer M. de Voltaire. Cet homme illustre par son génie poétique le charme original de son style et l'étonnante variété de ses talents, s'était fait en quelque sorte l'apôtre de l'humanité, le dénonciateur de tous les maux publics et le vengeur de toutes les injustices particulières. L'entrée de M. Turgot dans le ministère avait été pour lui un des moments les plus délicieux de sa vie. La France avait peu de citoyens aussi attachés à leur patrie, comme le genre humain n'avait jamais eu de si ardents défenseurs. Il avait conçu les espérances les plus étendues en voyant la raison, la justice, la haine de l'erreur et de l'oppression appelées auprès du trône. M. Turgot avait été obligé de le prier de modérer les expressions de son bonheur et de ses espérances, car dans les commencements de son ministère, il lui avait fallu employer pour arrêter l'enthousiasme des amis de la raison et de la prospérité publique, autant de soins que d'autres ministres en ont pris pour exciter celui de la multitude. La destruction des fermes dans le pays de Gex avait augmenté l'attachement de M. de Voltaire, qui sentit la destitution de M. Turgot comme on sent un malheur personnel. Nous avons été témoins, en 1778, de l'enthousiasme mêlé d'une vénération tendre et profonde que le nom, que la vue de M. Turgot excitait dans cet illustre vieillard. Nous l'avons vu, au milieu des acclamations publiques, accablé sous le poids des couronnes que lui prodiguait la nation, se précipiter au-devant de M. Turgot d'un pas chancelant, saisir ses mains malgré lui, les baiser et les arroser de ses larmes, en lui criant d'une voix étouffée « Laissez-moi baiser cette main qui a signé le salut du peuple. » M. Turgot vit avec peine s'évanouir l'espérance qu'il avait conçue de réparer les maux de son pays et d'appuyer sur une base inébranlable la félicité d'une grande nation. Mais sa douleur fut celle d'une âme forte dont la tranquillité et le bonheur ne dépendent ni des révolutions d'une cour ni des jugements de la multitude. Aussi, la révocation des édits sur les corvées et sur les jurandes l'affligea plus vivement que la perte de sa place. Jusque-là, il avait pu croire que le bien projeté par lui ne serait que retardé. Et comme il avait déjà détruit ce qu'il y avait de plus insupportable dans les maux du peuple, il se consolait par l'idée que le progrès des Lumières amènerait avec plus de lenteur seulement des changements dont l'utilité, déjà prouvée par les hommes éclairés, finirait par frapper enfin tous les regards. Mais il ne put que gémir lorsqu'il vit s'appesantir de nouveau sur le peuple le joug que sa main avait brisé. Ce même événement eût consolé peut-être un homme qui n'eût aimé que la gloire. Si sa disgrâce n'avait pas été suivi de la révocation des lois qu'il avait conseillées, on aurait pu l'attribuer à quelque faute involontaire, car sa vertu était au-dessus de tout autre soupçon. Mais révoquer ses lois, c'était annoncer qu'il n'était coupable que d'avoir voulu sauver son pays. Jamais la haine, si souvent aveugle, ne servit mieux celui qu'elle voulait détruire, et dont elle confondait ainsi la cause avec les intérêts de la prospérité publique, avec ceux de la liberté du peuple des villes et des habitants des campagnes. Rendu à lui-même, M. Turgot n'éprouva pas ce vide affreux, punition juste mais terrible des ambitieux que la fortune abandonne. Les sciences qu'il avait cultivées remplirent aisément toute sa vie. Il s'aperçut que, dans ses recherches sur la physique, des connaissances mathématiques plus étendues lui seraient souvent utiles, et il résolut de les acquérir. Il porta dans l'étude des mathématiques cet esprit d'analyse métaphysique qui avait été pour lui un guide si sûr dans d'autres sciences. Aussi n'était-il pas toujours satisfait des démonstrations qu'il trouvait dans les livres. En général, dans les mathématiques, et principalement dans l'analyse, on exige seulement que les démonstrations soient rigoureuses. Et comme il importe surtout d'aller en avant, on ne s'arrête pas à résoudre les difficultés métaphysiques qui se présentent, parce qu'on est sûr que l'habitude du calcul fera disparaître l'incertitude que ces difficultés semblent répandre. M. Turgot eût voulu qu'on dissipât jusqu'aux plus petites obscurités. Il eût voulu encore que l'analyste rendît compte des motifs qui lui font employer les opérations qui le conduisent à son but, qu'il montrât par quelles raisons il les a préférées et par quelle suite de raisonnements elles se sont présentées à lui. Peut-être serait-il utile que l'on pût se conformer à ces vues dans les livres élémentaires. On peut sans doute se dispenser de ces discussions si l'on ne regarde l'analyse que comme une science particulière ou un instrument utile aux autres sciences. Mais elle cesse de l'être lorsqu'on la regarde comme une étude propre à former la raison, à la fortifier, et surtout à faire connaître la marche de l'esprit humain dans la recherche de la vérité. Ces mêmes détails sont inutiles aux hommes nés avec un vrai talent, et même peut-être à ceux qui font des mathématiques pures le sujet de leur méditation. Mais le sont-ils également aux jeunes gens qui n'étudient ces sciences que pour en connaître les éléments ou pour les appliquer aux objets de leurs travaux? Si l'on suivait les vues de M. Turgot, on observerait peut-être moins souvent que des hommes qui paraissent, dans leur éducation, avoir porté très loin l'étude des mathématiques, sont devenus, au bout de quelques années, incapables d'en appliquer les éléments à la plus petite question pratique. On ne verrait pas des savants, même justement célèbres dans d'autres genres, être embarrassés pour faire par eux-mêmes des calculs fort au-dessous des connaissances qu'ils avaient acquises dans leur jeunesse. M. Turgot cherchait, en même temps, à donner plus de précision au thermomètre, instrument dont il jugeait avec raison que la perfection serait d'une très grande importance pour la physique en général et surtout pour la météorologie. Cette science, encore très nouvelle, était une de celles dont il aimait le plus à s'occuper. Et par cette raison, et parce qu'elle offre l'espérance d'une riche moisson de vérité, importante pour la connaissance des lois de la nature et d'applications utiles pour l'amélioration ou la sûreté des productions de la terre, pour la conservation de la santé ou de la vie. Il continuait ses essais sur la distillation dans le vide dont nous avons parlé. Enfin, convaincu qu'un des plus grands services qu'on put rendre aux hommes était de faciliter et de multiplier les moyens de se communiquer ses idées et de délivrer cette communication des entraves que les préjugés y opposent, il s'occupait avec M. l'abbé Rochon de différentes méthodes expéditives, commodes et peu coûteuses, de multiplier les copies de ce qu'on écrit, de remplacer l'imprimerie et de détruire, sinon par la raison, du moins par l'impossibilité du succès, les gènes multipliés qui n'arrêtent pas, mais qui retardent le bien que cette découverte doit faire un jour à l'humanité. M. Turgot avait conservé toute sa passion pour la littérature et la poésie. Jamais il n'avait perdu l'habitude de faire des vers, amusement qui lui était très précieux dans ses voyages ou pendant les insomnies que la goutte lui causait. Mais ces vers étaient pour lui seul. À peine un petit nombre d'amis était-il admis dans la confidence. Quelques fragments ont été connus du public, et ces fragments étaient attribués à Voltaire par tous les gens de lettres. On ne connaît de M. Turgot qu'un seul vers latin destiné pour le portrait de Franklin. Eripuit caelo fulmen, mox spectra tyrannis. Les vers français métriques sont le genre de poésie que M. Turgot a le plus cultivé. Il avait fait une étude profonde de tout ce qui peut appartenir à notre langue, et il avait remarqué que, dans une prononciation un peu soutenue, il est plus facile qu'on ne croit et ordinairement de distinguer les syllabes brèves et longues. Il en concluait que dans les vers métriques français, la quantité pouvait être sensible, que leur harmonie frapperait des oreilles exercées, et que nous aurions par là le double avantage d'avoir une poésie moins monotone et de fixer la prosodie de la langue, ce qui aurait l'utilité réelle de procurer plus de facilité pour se faire entendre. Peut-être que si M. Turgot eût donné en vers métriques un poème rempli de ses idées grandes, de ces vérités importantes qui lui étaient si familières, il eût commencé cette révolution dans notre poésie. Mais il se borna presque à traduire, et surtout à traduire Virgile, parce qu'apprenant par cœur les vers de l'original, ce travail devenait plus commode pour le temps que nous avons vu qu'il destinait à la poésie. C'était par ses occupations que M. Turgot remplissait sa vie. Un commerce de lettres avec M. Smith sur les questions les plus importantes pour l'humanité, avec le Dr Price sur les principes de l'ordre social ou sur les moyens de rendre la révolution de l'Amérique utile à l'Europe et de prévenir les dangers où cette république naissante était exposée. Avec un évêque de l'église anglicane qu'il détournait du projet singulier d'établir des moines en Irlande. Avec Franklin, sur les inconvénients des impôts indirects et les heureux effets d'un impôt territorial, lui offrait encore une occupation attachante et douce. Le désir du bien général des hommes était en lui une véritable passion. Des âmes étroites et froides ont nié l'existence de ce sentiment qui, à la vérité, n'a jamais existé pour elles. Des esprits légers et bornés ont cru qu'on ne pouvait l'exercer d'une manière utile parce qu'ils étaient incapables de s'élever à ces vérités générales et simples, base éternelle et immuable du bonheur commun de l'humanité. Dans le moment où la guerre se déclara, M. Turgot vit combien il serait honorable à la nation française que le vaisseau de Cook fût respecté sur les mers. Il dressa un mémoire pour exposer les motifs d'honneur, de raison, d'intérêt même, qui devaient dicter cet acte de respect pour l'humanité. Et c'est sur son mémoire, dont pendant toute sa vie l'auteur est resté inconnu, qu'a été donné l'ordre de ne pas traiter en ennemi le bienfaiteur commun de toutes les nations européennes. Par un bonheur bien rare au ministre déplacé, il avait conservé tous ses anciens amis et en avait acquis quelques-uns. À la vérité, nous entendons seulement ici par ce mot ceux qu'il regardait comme tels, et non ceux qui en avaient d'eux-mêmes pris le titre par intérêt ou par vanité. L'amitié de M. Turgot était tendre, agissante, courageuse. Il s'occupait des affaires, des travaux de ses amis, avec une activité que l'intérêt personnel ne donne point, et une délicatesse qui, dans une âme forte, supposait une sensibilité vive et profonde. Dans les malheurs qui ne regardaient que lui, il conservait ce calme que le courage soutenu et guidé par la raison rend inaltérable. Mais il était troublé du malheur de ses amis. L'amitié ne l'aveuglait pas sur leurs défauts. Il les voyait, mais il les jugeait avec indulgence. La réunion de quelques qualités essentielles qui méritent l'attachement et la confiance lui paraissait tout ce qu'on peut exiger ou attendre de l'humanité. L'étude qu'il avait faite de la nature humaine le portait à cette indulgence, qu'il étendait à tous les hommes, mais que le sentiment de l'amitié rendait plus grande encore en faveur de ceux qu'il aimait. Il leur donnait des conseils, mais seulement dans des circonstances où ces conseils pouvaient leur être utiles, et en respectant également et leurs secrets, s'ils ne les lui avaient pas confiés, et leur liberté. espèce de ménagement rare dans l'amitié même la plus vraie, et qui cependant la rendrait plus douce et moins sujette aux refroidissements et aux orages. Il tolérait aisément dans ses amis des opinions contraires aux siennes, pourvu qu'ils les eussent de bonne foi et qu'ils ne les crût ni incompatibles avec une probité véritable, ni inspirés par l'intérêt ou par la bassesse. Les amis de M. Turgot l'aimaient comme il méritait d'être aimé. Jamais une sensibilité plus vraie et plus douce n'a pu se faire pardonner une supériorité qu'on était obligé de reconnaître, qu'il ne montrait point, qu'il cachait même, mais sans chercher à la cacher. Aussi, cette supériorité ne faisait-elle que répandre sur le sentiment qu'on avait pour lui un charme que l'amitié pour un homme ordinaire ne peut faire éprouver. Il a eu pour amis des hommes qui jouissaient ou d'une grande existence ou d'une célébrité méritée, et il n'en est aucun qui ne comptât le nom d'ami de M. Turgot comme un de ses premiers droits à la considération publique. Il a eu des amis fort inférieurs à lui en connaissance, en esprit, en talent. Mais il savait se proportionner à eux, sans faire entendre. Et s'ils apercevaient quelquefois de sa supériorité, c'était par les ressources inattendues qu'ils trouvaient dans son esprit et dans ses lumières. Avec des occupations si attachantes et si variées, le bonheur d'aimer et d'être tendrement aimé, le témoignage d'une conscience toujours pure, le sentiment, si rare pour un ministre, de n'avoir jamais déguisé la vérité au prince qu'il avait choisi, de n'avoir jamais trahi le plus léger intérêt du peuple confié à ses soins, de n'avoir jamais souscrit à aucun acte d'oppression et d'injustice, de n'avoir enfin mérité des ennemis qu'en défendant la nation contre les préjugés ou les intérêts des hommes puissants et le trésor public contre l'avidité des intrigants de tous les ordres. Enfin, avec ces jouissances si douces que donne à une intelligence vaste et forte le plaisir de contempler et de saisir la vérité, M. Turgot pouvait se promettre une carrière heureuse. Ses amis devaient espérer de conserver celui dont les lumières supérieures, la douce société, l'amitié tendre, étaient un de leurs premiers biens, un de ces sentiments qui attachent à la vie, l'embellissent ou aident à la supporter. Ces attaques de goutte avant son ministère n'avaient été que douloureuses. Le travail forcé auquel il se livra au milieu des accès de cette maladie en changea la nature. Et lorsqu'il fut rendu à lui-même, le repos ne put réparer les désordres que son zèle pour ses devoirs avait causés. Les accès devinrent de plus en plus dangereux, et il finit par être la victime de son patriotisme et de son courage. Sa dernière attaque, qui fut si longue et si cruelle, n'altéra ni son âme, ni même son humeur. Toujours occupé, dans les intervalles de ses douleurs, tantôt d'un ouvrage qu'un de ses amis venait de publier et au succès duquel il prenait intérêt, tantôt du sort d'un homme de lettres alors malheureux, tantôt de suivre ses pensées, de rassembler quelques observations métaphysiques sur la liaison de nos idées avec l'état de nos organes, il ne laissait rien apercevoir à ses amis qu'une sensibilité plus touchante qui ne paraissait excitée que par les soins qu'il lui rendait. Et son âme vit arriver avec tranquillité le moment où, suivant les lois éternelles de la nature, elle allait remplir dans un autre ordre la place que les lois lui avaient marquée. Depuis sa retraite du ministère, il s'était moins occupé d'objets politiques, et surtout, de ceux qui pouvaient avoir quelque liaison avec l'administration ou les lois de la France. Cette occupation lui eut rappelé d'une manière trop douloureuse l'espérance qu'il avait eue d'exécuter des idées si salutaires, de faire le bien montré, et la conduite de ses successeurs n'était pas propre à le consoler. D'ailleurs, il sentait qu'on était en droit d'exiger de lui des détails particuliers, des applications de ses principes au pays qu'il avait administré, des moyens d'y mettre en action les vérités qu'il aurait établies. Il était impossible d'exécuter ce plan sans donner lieu à des interprétations injurieuses et sans encourir le soupçon d'avoir cherché une vengeance trop au-dessous de lui. Personne ne méprisait plus les petits secrets auxquels, dans toutes les administrations, les hommes médiocres attachent une importance si puérile. La connaissance de tout ce qui peut influer sur le bonheur public doit être un bien commun à tous, et la publicité des opérations du gouvernement lui paraissait le frein le plus sûr à tous les abus. Tout particulier a sans doute le droit de publier ces mêmes secrets s'il les a découverts. Mais l'homme en place, à qui on les a confiés, n'a plus celui d'en disposer. Ce droit cesse d'exister pour lui seul. Ce n'était donc qu'à la postérité que M. Turgot eût pu dire la vérité tout entière. Car il ne voulait point la dire à demi. Il ne voulait point souiller par des mensonges, ni même par des réticences, un ouvrage consacré à sa patrie, à l'humanité. Il avait formé le projet de cet ouvrage. Il devait y développer dans un ordre méthodique toutes ses idées sur l'âme humaine, sur l'ordre de l'univers, sur l'être suprême, sur les principes des sociétés, les droits des hommes, les constitutions politiques, la législation, l'administration, l'éducation physique, les moyens de perfectionner l'espèce humaine relativement au progrès et à l'emploi de ses forces, au bonheur dont elle est susceptible, à l'étendue des connaissances où elle peut s'élever, à la certitude, à la clarté, à la simplicité des principes de conduite, à la délicatesse, à la pureté des sentiments qui naissent des âmes, aux vertus dont elles sont capables. Toutes les opinions philosophiques de M. Turgot formaient un système également vaste et enchaîné dans toutes ses parties. Souvent, lorsqu'on agitait devant lui une question particulière d'administration, de législation, de jurisprudence, on voyait avec étonnement qu'il avait sur cette question non une de ces opinions vagues fondées sur un premier aperçu, inspirées par une espèce d'instinct qu'on adopte au hasard et ensuite par vanité, mais une opinion arrêtée qui se liait d'elle-même à son système général. Lui parlait-on d'un abus, d'un désordre, quel que fût le pays de l'Europe où il régna, quelle que fût la branche de la législation qui l'eût infectée, il connaissait l'origine du mal, ses effets, les causes qui en prolongeaient la durée et les moyens de le détruire. On eût cru qu'il en avait fait l'objet particulier de ses réflexions, s'il n'eût été facile de reconnaître l'application simple et naturelle de ses principes généraux. Il ne s'est encore trouvé personne, disait Bacon, doué d'assez de constance et de force de tête pour oser s'imposer la loi de renoncer à toutes les théories, de détruire toutes les notions que son esprit a reçues et de se préparer ainsi un entendement qui, comme une table rase, soit disposé à recevoir les idées plus précises, l'observation et l'expérience lui présenteront. Aussi, la raison humaine n'est-elle qu'un amas indigeste de notions reçues dans l'enfance, adoptées sur parole et rassemblées au hasard. Si un homme dégagé des préjugés, d'un âge mûr dans la vigueur de ses sens, osait entreprendre ce travail, que ne devrait-on pas en attendre? Mais aucun homme ne l'a exécuté. Personne n'en a même eu l'idée. Turgot, et jusqu'ici M. Turgot seul a été cet homme. Combien n'aurait-il pas été utile de pouvoir connaître dans ses principes, dans son enchaînement, dans toutes ses parties, ce système si fortement combiné, si dégagé de toute opinion reçue sans examen. Mais M. Turgot n'avait pas même commencé à écrire ce grand ouvrage. Et c'est d'après ses conversations et quelques idées répandues dans le petit nombre d'écrits qu'il a laissés que je vais essayer d'en tracer une légère esquisse.